Bonjour à tous. Je vous propose une rencontre avec une chanteuse valaisanne qui a déjà plus de 30 ans de carrière derrière elle et qui a fait des concerts dans une centaine de pays différents. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Selina Ramzauer. En route donc pour cette interview réalisée au mois de mars 2020. Selina Ramzauer, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, tip top.
Je précise que l'on fait cette interview à distance à cause de l'épidémie qui nous touche. De manière générale, comment est-ce que vous vivez cette période de semi-confinement?
Je le vis plutôt bien. Alors, de façon personnelle, je le vis très très bien du moment où les gens vont bien. Je le vis un peu moins bien quand effectivement des nouvelles plus tristes arrivent. D'un point de vue professionnel, alors là je le vis carrément bien dans le sens où j'ai passablement de création en cours, ce qui fait que je travaille énormément sur ces créations. Et pour les créations qui demandent à travailler à plusieurs, on travaille essentiellement par Internet.
Très bien. Si vous le permettez, je vais tenter de dresser rapidement votre portrait. Votre enfance, vous l'avez passée entre Miège et Verras, tout près de Sierre. À l'âge de 4 ans déjà, vous émettez le désir de jouer de l'accordéon. Votre grand-père Alphonse et vos parents vous en offrent un. Vous prenez quelques cours, puis travaillez très vite en autodidacte. Aujourd'hui encore, le piano à bretelles, comme on l'appelle souvent, fait partie de votre quotidien. Lors de votre enfance, vous accompagnez ce même grand-père avec votre accordéon dans les cafés où il livre son vin. Vous jouez pour les personnes présentes des reprises de chansons françaises et dès l'âge de 13 ans déjà, vous signez vos premières compositions. Vous entamez ensuite un apprentissage de dessinatrice section architecture, formation que vous effectuez en parallèle de la mise en place d'un début de carrière artistique. Votre diplôme en poche, vous abandonnez définitivement la planche à dessin et vous vous plongez dans le fleuve tumultueux de la musique. Vous vous consacrez en effet à votre métier d'auteur, compositeur, interprète et montez vos propres sociétés de production et d'édition. S'ensuivent 8 albums studio, des concerts aux quatre coins du monde et de nombreuses collaborations artistiques, par exemple avec Luc Plamondon, Georges Moustaki ou encore Théophile Auchantre. À vos heures animatrice radio, comédienne et programmatrice de concerts, la palette de vos activités s'est encore élargie il y a quelques années lorsque vous avez co-créé avec le docteur Clara Kliba l'école de la chanson. Voilà pour ce petit portrait. Est-ce qu'il vous convient? Est-ce qu'il y a quelques erreurs qui se sont glissées à l'intérieur?
Non, je crois que c'est assez juste. Merci, bravo.
Très bien. On va commencer donc par vos débuts professionnels. Dans quelles circonstances avez-vous décidé de vous lancer professionnellement dans le monde du spectacle?
En fait, ça s'est fait un petit peu naturellement, dans le sens où je n'ai pas décidé à un moment précis de me lancer dans le monde du spectacle. Les choses se sont faites petit à petit. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai commencé à jouer de l'accordéon dès l'âge de 4 ans. J'ai fait une première grande scène à l'âge de 7 ans et puis j'ai vraiment eu la chance de rencontrer tout au long de ma vie des gens qui m'ont amené dans ce métier finalement. Je ne me suis pas posée un jour en me disant « moi quand je serai grande, je veux être chanteuse ou je veux être productrice artistique ou etc. » Je me suis laissée porter par les rencontres, finalement ces personnes, toutes ces personnes qui ont été et qui sont encore sur mon chemin et qui m'ont fait me dévoiler vis-à-vis de ce qui est devenu un jour effectivement mon métier.
Et votre tout premier album, est-ce que ça a été particulièrement difficile de réussir ce pari? Par exemple pour le financement ou pour d'autres raisons, comment ça s'est passé?
Alors là aussi j'ai eu la chance d'être très très bien entourée. La personne, donc Richard Clavien, qui m'a donné finalement ses premiers cours d'accordéon, qui a très vite compris, qui a eu la sagesse de très vite comprendre qu'il fallait me laisser fonctionner en autodidacte, avait un studio d'enregistrement dans le village, ce qui a grandement facilité le fait que j'aie accès à un studio d'enregistrement. C'est lui qui s'est occupé d'ailleurs des arrangements de cette première. À l'époque, c'était une cassette qu'on enregistrait hein, sur ces grosses bandes qu'il fallait couper pour recoller les choses. Et c'était, j'ai eu la chance de pouvoir vivre ça. C'était vraiment incroyable. Le son était aussi assez incroyable. Et du coup, ben, là aussi, ben, voilà, les choses se sont faites naturellement parce que il y avait cette facilité d'accès à un studio. C'est une chance.
Céline, on va parler maintenant d'un des aspects de votre profession, c'est le live, les concerts. De manière générale, qu'est-ce que vous ressentez avant un concert, quelques heures, quelques minutes avant? Comment ça se passe?
Alors déjà, ça se passe bien avant quelques heures, quelques minutes, dans le sens où en général, une semaine avant, voire 10 jours avant, je tombe malade. Soit j'ai un problème de gorge, de maux de ventre, de maux de tête. Et puis, je vis avec ça jusqu'au moment du concert. Alors, ça s'appelle le trac, hein. Chez moi, il n'arrive pas juste avant le concert, il arrive vraiment bien en amont, ce qui fait que ça me prend beaucoup d'énergie en fait l'avant concert. C'est vraiment une période qui est très difficile. Plus j'avance dans le temps et plus c'est compliqué. Mais en même temps, je ne le supporterais pas si c'était pas pour justement le fait de monter sur scène qui là est un moment extrêmement incroyable. C'est un moment fou d'avoir rendez-vous avec le public. C'est quelque chose qui est pour moi difficile à expliquer parce que autant c'est difficile avant, autant une fois sur scène, c'est vraiment une énergie, un échange d'énergie qui est juste au-dessus de tout.
Vous vous êtes produite sur scène dans de nombreux pays aux quatre coins du globe, environ 100 pays, je crois. Racontez-nous pourquoi vous avez voulu faire tous ces concerts à l'étranger.
Ben là aussi, c'est des choses finalement qui se sont mises en place assez naturellement. Moi, j'étais jamais tellement sortie de la Suisse jusqu'à mes, je pense, 14, 15, 16 ans, 16 ans même, je pense. Je crois même que la première tournée artistique hors Suisse, ça a été mon premier, je crois, hein, je crois que ça a été mon premier voyage à l'international. Et du coup, c'était incroyable parce que j'ai commencé à l'âge de, je crois que j'avais 16 ans, ouais. Je suis partie jouer dans les Émirats arabes. Alors, c'est assez fou. Mais ça s'est fait comme ça. Et puis, lorsque je suis rentrée des Émirats, j'ai pris là, c'est moi qui ai pris un billet pour Montréal. J'ai pris un billet pour Montréal, j'avais envie de rencontrer Montréal, d'aller jouer à Montréal. Je me rappelle que tous les matins, je me levais, je prenais mon accordéon sur le dos, j'allais voir les responsables de place à Montréal, où on faisait de la chanson, et j'allais leur chanter mes chansons pour que, dans l'espoir qu'ils me laissent jouer sur leur scène le soir. Et voilà comment les premiers voyages ont été faits. Très vite, j'ai rencontré le monde de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, qui m'a permis de voyager énormément aussi à travers ben, leur réseau, à travers les alliances françaises, à travers les ambassades suisses, et puis à travers ben, des organisateurs ensuite de spectacles, des organisateurs indépendants, etc. Les choses se sont vraiment faites, encore une fois, aussi assez naturellement. Mais c'est vrai qu'une fois que le premier spectacle, le premier voyage a été fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc là qui me titillait vraiment. Et j'ai pas mis long à comprendre que ce qui m'intéressait surtout, c'était cette richesse de la diversité. C'est pour ça que je défends avec autant de force la richesse de la diversité, parce que ce qu'on m'a offert à travers ces voyages, c'est quelque chose qui est quasiment inexplicable, dans le sens où j'ai grandi finalement, j'ai grandi avec cette diversité, j'ai grandi avec le fait de pouvoir, quand on est artiste, en tout cas, moi je trouve que c'est exceptionnel parce que ça offre un passeport génial pour avoir accès directement aux personnes. Et du coup, j'ai pu me rendre compte de la richesse justement de chacune de ces personnes, en plus de pouvoir travailler avec ces personnes. Il m'arrive régulièrement encore aujourd'hui de travailler avec des musiciens des pays dans lesquels je vais jouer. Il y a aussi toute la technique, tous les organisateurs. Donc c'est vraiment un accès privilégié qui fait qu'on peut en tout cas découvrir une culture, un peu de culture de chacun de ces pays. C'est juste privilégié en fait.
Justement, est-ce que les publics sont très différents selon les pays? Et puis, est-ce qu'on peut tirer des généralités? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les publics d'Amérique du Nord ont tendance à réagir de telle manière?
Alors, je me rappelle assez clairement, effectivement, que y a eu ma période où j'ai beaucoup joué dans les bistrots avant de dire, bon, ben, maintenant, je fais plus que de la scène, justement, qui correspond un petit peu à cette première tournée à l'international. Je me rappelle que dans ce même laps de temps, j'avais fait mon premier concert en Suisse allemande, à côté de Zurich. Et j'étais tellement perturbée par le fait que le public dans la salle était tellement silencieux, tellement respectueux. Je crois même qu'à un certain moment, j'aurais demandé si tout allait bien. Et quelques années plus tard, j'ai fait mon premier spectacle en Chine. Et j'ai eu le même sentiment. Et là, je me suis dit, le public chinois et le public suisse-allemand sont pareils. Ils fonctionnent exactement de la même manière, ils sont hyper, hyper respectueux. On entend vraiment, limite, on se demande si ça les intéresse. Et à la fin, c'est l'inverse, c'est des applaudissements à n'en plus finir, des bouquets de fleurs, etc. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Après, forcément, chaque public, encore une fois, chaque public est différent, mais je dirais pas que c'est forcément lié au pays ou aux cultures. Alors c'est vrai qu'après, bien sûr, hein, dans les différentes cultures, on a différentes façons, différents codes, mais fondamentalement, je crois qu'on est tous pareils. On aime ou on n'aime pas quelque chose. Et puis, alors, effectivement, dans la façon de le montrer, c'est parfois un petit peu différent.
On va passer maintenant à l'aspect composition de vos chansons. Vous avez écrit, on l'a dit tout à l'heure, vos premières chansons vers l'âge de 13 ans. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée au départ?
Ça n'a pas été un jour où je me suis dit je vais écrire une chanson. Il y a eu un événement déclencheur à l'âge de 12 ans, quelque chose d'assez difficile à vivre, qui a fait que j'ai écrit une première chanson. C'est une chanson que je n'ai jamais éditée parce que à ce moment-là, j'ai pris conscience aussi. Alors au moment où j'ai décidé d'en écrire une deuxième, une troisième, etc., j'ai pris conscience aussi qu'effectivement, la chanson est un magnifique outil pour pouvoir extérioriser, pour pouvoir dire des choses, mais que si je voulais le faire de façon professionnelle, il fallait que je sois consciente du devoir que j'ai de ne pas transmettre quelque chose de négatif. Donc je fais extrêmement attention aux mots, extrêmement attention à ce que je dis, parce que je crois en la force des mots, la force énergétique des mots. Je pense que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Et du coup, cette première chanson, pour cette raison-là, entre autre, je ne l'ai pas éditée en disant, ben voilà, ça me concerne, c'est très personnel. Et c'est pas ce type de chanson que j'ai envie d'offrir aux gens qui voudront bien écouter mes chansons.
Et aujourd'hui, est-ce que l'inspiration vous vient toute seule, en principe, ou c'est vous qui cherchez à des sujets?
Ça dépend, je travaille en général de façon assez, comment on dit, c'est un peu un genre de méditation en fait. Je me mets en situation qui fait que je suis réceptive. Alors d'abord, je vis chaque jour comme tout le monde. C'est ce qui fait que ça me permet de rencontrer du monde, ça me permet de voir comment on vit tous, ça me permet de rassembler de la matière sans forcément être consciente que ça va servir à une chanson. Mais donc je suis plongée dans la vie réelle pour pouvoir à un certain moment, en fonction de mes sentiments, dire ben voilà, là j'ai envie d'écrire sur tel sujet. Mais encore une fois, souvent Effectivement, je me mets en condition, je suis avec mon instrument et les choses, alors j'attends pas que ça arrive, mais les choses arrivent assez naturellement. Avec les années, voilà quoi, j'ai quelques codes qui font que je sais qu'il faut que j'aille me mettre derrière mon accordéon ou avec un papier parce qu'il y a des choses à écrire à ce moment-là. Ça peut être des événements déclencheurs aussi. Et puis après, par exemple, mon dernier album, l'album 8, j'ai eu envie de creuser dans des citations et des proverbes. J'adore les citations et les proverbes. Et ce que je trouve de génial dans les citations et proverbes, c'est que, encore une fois, c'est quelque chose qui nous rassemble partout dans le monde, dans le sens où on peut trouver un proverbe ici en Europe et retrouver le même type de proverbe, alors avec des mots sensiblement différents dans une autre langue, mais avec la même racine en Asie. Donc j'ai fait une recherche dans les citations et proverbes du monde pour en garder qu'un certain nombre. Et puis partant de ces citations et proverbes, j'ai écrit des chansons. Et du coup, c'était très intéressant parce que finalement, j'ai eu un sentiment par rapport à une base, j'ai écrit la chanson et on n'était plus forcément dans le même monde que le ressenti de la citation ou du proverbe à la fin de la chanson. Donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire aussi. Donc après, ça peut être aussi tout à coup quelqu'un qui souhaite que j'écrive pour elle ou pour lui et qui dit ben voilà, moi j'ai envie de ça, c'est quelque chose que je peux faire également. Mais c'est un autre positionnement. Donc, comme d'écrire un texte pour le théâtre ou un texte pour un livre, ou, etc.
Très bien. Célina, l'une de vos chansons intitulée Ensemble est devenue l'hymne à la francophonie en rapport avec l'Organisation internationale de la francophonie. Comment ça s'est passé? Par quel chemin s'en est arrivé là?
Alors cette chanson Ensemble, c'est une chanson assez incroyable parce qu'elle a eu déjà plusieurs vies. Je pense qu'elle en aura encore pas mal d'autres. C'est une chanson qui a été écrite que j'ai écrite en 2003 sur la base de textes écrits par des personnes en situation de handicap. Ce que j'ai pu rassembler sur ces différents textes, c'est l'impression que ce qui fait le plus souffrir, en tout cas sur ces textes, c'était en premier lieu pas forcément le handicap lui-même, mais la vision qu'ont les autres de ce handicap. Donc du coup, voilà comment est parti, comment j'ai écrit cette chanson ensemble. C'est vraiment avec cette conscience-là. Et puis, chemin faisant, en 2004 ou 2005, je pense, j'ai eu la chance de dîner à la maison chez Boutros Ghali, qui était à ce moment-là le premier secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avions un ami en commun et cet ami dit à Boutros, Célina, cette chanson qui s'appelle Ensemble, qui défend exactement les valeurs défendues par l'organisation. Et voilà comment cette aventure a démarré. Chemin faisant, il y a eu un deuxième secrétaire général, Son Excellence Abdou Diouf, ancien président du Sénégal. On a décidé de réarranger cette chanson avec une instrumentation plus accessible, c'est-à-dire un peu plus variété, un peu plus pop. Cette chanson a donné lieu à un concept, je crois que c'était en 2010, à l'occasion des 40 ans de l'organisation. On a lancé ce concept via le réseau de l'organisation sur toute la planète pour que cette chanson soit reprise dans tous ces pays de différentes façons. Donc cette chanson est devenue finalement un outil pédagogique accessible à toutes et à tous, puisqu'il existe un site internet qui s'appelle ensemblefrancophonie.org sur lequel on peut télécharger gratuitement tout ce matériel. Et puis c'est vraiment devenu un outil prétexte pour parler de la richesse de la diversité à travers le monde.
Très bien, on va parler maintenant d'un autre aspect de votre profession, c'est l'enregistrement, le travail en studio. Vous avez enregistré vos quatre derniers albums dans un studio situé tout près de Paris. À chaque fois, c'est Christophe Battaglia qui a été l'arrangeur de ces opus. On va peut-être situer, resituer qui est Christophe Battaglia. C'est un ingénieur du son qui a travaillé à la confection d'albums de Christophe Maé, Céline Dion, Yannick Noah ou encore Jean-Jacques Goldman. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, lui et vous? Est-ce que c'est vous qui l'avez contacté ou c'était un hasard de rencontre?
Alors, cette rencontre est effectivement ben, liée à cette chanson ensemble, justement à ce deuxième temps où on a voulu réarranger ce titre. J'avais à l'époque une amie qui travaillait chez Sony BMG à Paris, Nathalie, à qui je dis ben, voilà, je te fais écouter cette chanson, j'aimerais bien trouver un arrangeur, mais qui puisse travailler de telle façon, etc., etc. Et puis Nathalie fait écouter ce titre à Robert Goldman, Robert, le frère de Jean-Jacques Goldman, Robert qui travaille avec Christophe, et du coup Robert fait écouter le titre à Christophe. Et voilà comment on s'est tous rencontrés. C'est donc grâce à ces personnes que j'ai pu travailler avec Christophe.
Très bien, vous avez ensuite continué de travailler avec lui. Pour quelle raison? À chaque fois, ça vous fait quand même un peu plus de déplacement, donc j'imagine que son travail vous convient particulièrement.
Alors, je travaille avec Christophe d'abord parce qu'il accepte de travailler avec moi. Je travaille avec Christophe parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel dans ce métier, dans le sens où c'est une personne très très authentique, très vraie, qui a des valeurs fondamentales qui sont très très ancrées. Et puis avec qui on s'entend vraiment sur les directions artistiques. C'est un bonheur de travailler avec lui. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours, mais Georges Moustaki disait ça de moi, donc c'est qu'un perpétuel recommencement.
Très bien. Célina, avec votre complicité, j'ai pu joindre Christophe Battaglia pour un court interview. Si vous le voulez bien, on va écouter ensemble cette interview. Christophe Battaglia, bonjour.
Bonjour.
Vous avez travaillé à l'élaboration de plusieurs albums de Célina Ramzaouer. Comment est-ce que vous la décririez dans sa manière de travailler ou dans sa personnalité?
Je la décrirais comme un artisan, en fait. Et en plus, elle est issue d'une famille d'artisans. Son père et son frère le sont. Et je trouve qu'elle aussi, à sa manière, de la manière dont elle travaille, de la manière dont on élabore les chansons, elle a une approche très, très artisanale. Elle commence toujours à travailler les chansons avec son instrument premier, qui est l'accordéon. Elle élabore ce qu'on appelle une maquette assez simple. Et c'est là où apparaît déjà toute l'essence de la chanson. Elle se focalise sur l'essentiel, on va dire, les paroles, la mélodie et les harmonies. Et c'est une manière de travailler qui est un petit peu aux antipodes de certains artistes à l'heure actuelle qui mélangent, on va dire, la composition et la production en même temps. C'est-à-dire que le son fait partie de la composition, elle, pas du tout. Elle s'attache vraiment d'abord à l'élaboration des mots et de la musique. La production, le son, ça vient après. C'est pour ça que je trouve qu'elle est assez proche d'un artisan, justement.
Est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote particulière liée à votre collaboration?
J'en ai plusieurs. Je suis souvent allé la voir en Suisse et on s'est rendu compte que pendant nos séances de travail, du moins à la fin de nos séances de travail, on avait toujours des envies qui étaient divergentes. C'est-à-dire que elle voulait boire et moi, je voulais manger. En fait, elle voulait systématiquement aller boire un coup et moi, je voulais systématiquement aller manger. Donc, c'était assez rigolo. On s'est toujours dit que elle, c'était le liquide et moi, le solide. Et ça revenait de manière récurrente à chaque fois qu'on finissait de travailler. Donc, à la fin, on en rigolait. Avant de se poser la question, on en rigolait déjà. Donc, ça, c'était assez sympa.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots sur votre collaboration sur le dernier opus de Célina qui s'intitule 8, qui est sorti environ il y a 2 ans?
Oui, c'est un album assez particulier. Célina m'a envoyé les maquettes et avait un désir de faire une pop vintage. pop vintage, on va dire la pop qui se définit à peu près dans les années 80, début 90. On avait comme référence certains titres de Michel Berger et France Gall, plutôt vers la fin de Michel Berger, pas le début. Donc on a, en écoutant bien ces maquettes, on a essayé de s'inspirer de cette période-là. Il faut dire que c'est toujours pareil quand on démarre un album, on a une idée de ce que ça peut représenter, mais c'est uniquement quand on a terminé qu'on a le paysage global. Et sur celui-là, je dois dire qu'on est assez proche de ce qu'on avait défini au début, c'est-à-dire un paysage vraiment empreint de cette époque-là, où on a mélangé des sons assez rétro, électroniques, mais en même temps qui rappelle énormément de souvenirs aux personnes qui peuvent l'écouter maintenant et qui replongent un petit peu dans cette époque, et j'espère avec bonheur.
Voilà pour cette interview. Célina, est-ce que vous aussi, vous estimez que vous êtes une artisane ?
Alors effectivement, je pense que mon premier métier, c'est d'ailleurs celui-là, le fait d'être artisan. Il y a d'ailleurs un titre sur ce 8e album, ce dernier album, qui s'appelle justement Artisan, dans lequel j'avais envie de parler de ce métier qui est un métier tellement noble. Moi, en étant auteur-compositrice, je suis avant tout, je me considère effectivement avant tout comme étant une artisane de la chanson, comme le disait Christophe, effectivement. Je pars du principe, mais c'est pas moi qui le dis, il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi, qu'une chanson bien construite, c'est une chanson qu'on peut chanter, qu'on peut interpréter uniquement avec sa voix. Si ça tient la route, eh bien l'arrangement après va faire que ce sera plus accessible à certains publics. Et moi, je le vois d'autant plus que mes chansons, je les interprète à la fois sur des spectacles en voix, accordéon, solo, et ces mêmes chansons, je les interprète accompagnées de musiciens. Donc on est vraiment dans des ambiances totalement différentes et dans des retours qui sont totalement différents parce que y a des gens qui aimeront plus l'aspect musicien avec plus de rythme, plus de musique, et d'autres personnes qui aimeront plus l'aspect intimiste avec un solo voix accordéon, mais la chanson est la même. Donc elle est capable, cette chanson, du moment où elle tient la route avec très peu de choses, elle est capable d'être habillée de différentes manières.
Célina Ramzaouer, on a déjà parlé tout à l'heure de votre dernier album. L'une des chansons de cet album, intitulée « Patouche », est un plaidoyer contre la maltraitance faite aux enfants. « Patouche », c'est également, bien sûr, une association suisse-romande qui se bat pour cette cause. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer une chanson pour cela ? Comment ça s'est passé ?
Ben, j'ai rencontré Bernard Jacquet, qui est le fondateur de Patouche, donc une association qui œuvre pour les maltraitances physiques et psychiques faites aux enfants. Il travaille essentiellement sur la prévention, sur la communication et puis sur le fait d'être présent en cas de violence. J'étais sensibilisée, comme je le suis toujours, en général par rapport au domaine de l'enfance. Et du coup, mais je crois que c'était d'ailleurs Bernard qui m'avait approché une première fois pour faire des spectacles à l'attention de Patouche. Et à un certain moment, j'ai eu envie de dédier une chanson à la fois à l'association et puis à la fois à cette cause.
Je crois que cette chanson est aussi destinée à être un outil pédagogique pour les enfants des écoles.
Exactement, l'idée c'est que comme on l'a fait pour le concept ensemble, c'est que la chanson d'abord est téléchargeable gratuitement sur le site patouche.ch. Et puis l'idée c'est que justement les enfants, les groupements, etc. puissent reprendre cette chanson et puis adapter les paroles, c'est-à-dire que ça devienne un outil effectivement en soi qui donne lieu aux discussions et à de nouveaux sentiments, à de nouvelles interprétations.
Célina, on l'a dit, vous avez derrière vous une assez longue carrière, mais vous avez aussi voulu transmettre le flambeau à d'autres avec l'école de la chanson que vous avez co-créée. En quoi consiste cette école ? Quelles sont les matières enseignées ?
Cette école consiste à travailler sur les quatre axes de la chanson, comme je disais avant, justement dans cet esprit d'artisan, et de se dire que dans ces quatre axes de la chanson, qui sont le texte, la musique, la voix et l'interprétation, on touche aussi directement au développement personnel. Ceci dit, donc cette école est destinée à toutes les personnes, autant les semi-professionnelles que les personnes qui n'ont aucune idée du monde de la chanson ou de la musique. Et puis l'idée, c'est vraiment de travailler en fonction de chacune et chacun, en fonction des outils, d'outils pédagogiques et d'outils aussi qui arrivent de par les personnes qui participent. Donc on fait à la fois des ateliers pour les enfants, à la fois des séminaires pour les adultes. Et puis on a un concept aussi qui s'appelle chanson sur scène, qui est destiné à des personnes qui souhaitent travailler sur 6 mois et qui vont travailler justement sur leur propre chanson et dont la finalité sera présentée sous forme de concert professionnel, sur une scène professionnelle, avec des musiciens professionnels, etc. Donc là, c'est vraiment un processus global par rapport à la chanson, comment écrire un texte, une musique, développer sa voix.
Et justement, je crois que les élèves de la première volée ont joué au Tohu-Bohu Festival de Verrasse. Est-ce que c'est bien le cas?
Exactement, la première édition s'est déroulée au Tohu-Bohu Festival. Et là, on s'est vraiment rendu compte que c'était quelque chose d'incroyable. On était très très fiers, hein, du travail effectué par ces premiers participantes et participants, parce que le résultat était vraiment, vraiment au-dessus de ce qu'on imaginait.
Qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'enseigner? Qu'est-ce que vous aimez dans l'enseignement?
Alors, j'irai pas jusqu'à dire enseigner, parce que enseigner, c'est quand même, attention, hein, on joue sur quelque chose d'un peu plus. Moi, ce que j'aime, c'est transmettre. Ce que j'aime, c'est m'entourer de personnes professionnelles. Dans cette école, il n'y a que des professionnels. En l'occurrence, tout le monde pense que c'est moi qui donne, qui parle du chant et de la voix, alors que c'est pas du tout moi, puisque je serais bien incapable de transmettre ce que moi-même je n'ai pas appris au départ. Donc l'école est vraiment axée là-dessus, hein, sur le fait que ce soit des professionnels. Et puis moi, ce que j'aime, c'est transmettre. Alors, ce que je peux transmettre le mieux, c'est mon expérience sur le terrain, c'est 30 ans de chansons, c'est des conseils. Par exemple, on se retrouve souvent confronté à des jeunes qui arrivent d'école obligatoire et qui disent: moi, je veux faire plus de la chanson ou plus que de la musique. Et mon rôle, par exemple, là, il est de leur dire: attention, ça ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir, vu que c'est aujourd'hui, on n'a pas vraiment, on peut pas être, à part le fait de faire un conservatoire, par exemple, qui donne une assise, il faut quand même trouver une assise à un certain moment avant de se lancer corps et âme dans la chanson. Il y a mille façons d'aborder le métier de la chanson. On peut considérer que c'est un métier en soi, on n'arrive pas du jour au lendemain à vivre de son art, donc du coup, il vaut mieux. Je dis toujours, plus on assure ses arrières en faisant quelque chose à côté qui puisse correspondre ou pas d'ailleurs, plus on aura la liberté à un certain moment de pouvoir justement ne faire plus que ça et de ne pas se retrouver à faire ce qu'on appelle entre guillemets de l'alimentaire. Et d'être peut-être un peu frustré à un certain moment parce que c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu faire.
On a oublié de vous poser la question, où se situent ces cours, dans quelle localité?
Alors, on a la chance d'être soutenu par la commune de Verrasse en Valais, en Suisse, tout près de Sierre exactement, et du coup, c'est hyper important parce que du coup, ils nous mettent à disposition les locaux nécessaires. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place pour faciliter la mise en place justement de cette école.
Question pratique, si quelqu'un s'intéresse, il y a un site internet où il peut prendre des informations?
Exactement, il existe un site internet qui s'appelle courselinaramzaouer.com, sur lequel vous trouvez effectivement toutes les informations.
Très bien, on va passer maintenant à un aspect un peu plus personnel de votre vie. Vous avez fondé une famille, vous avez un fils qui est arrivé maintenant à l'âge de l'adolescence. Est-ce que vous avez trouvé parfois difficile de concilier votre carrière et votre rôle de mère?
Non, alors pas du tout, dans le sens où ça a été plutôt un booster dans mon travail artistique, dans le sens où ça remet à être maman, en tout cas pour moi, ça m'a remis plein de choses en place. Je dirais même que ça a forcé justement certaines croyances et certaines valeurs. Et du coup, ma démarche artistique, non pas qu'elle soit entièrement tournée vis-à-vis de l'enfance, qu'on pourrait imaginer en tant que maman, hein, puisque j'ai toujours soutenu le monde de l'enfance bien avant d'être maman, mais ça m'a donné une énergie que je ne connaissais pas chez moi. C'est quelque chose de, je pense, de toute façon, je pense pas, je suis convaincue, c'est le fait d'être maman, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie.
Célina, quels sont vos projets à court terme, à moyen terme?
Alors, il y a pas simplement de projet. Le premier projet le plus rapproché, c'est celui, ben, si la pandémie le permet, de lancer notre nouveau spectacle. Ça fait plus d'une année qu'on travaille avec l'accordéoniste Yves Moulin et le violoniste Anthony Fournier sur un spectacle qui sera théâtro-comico-musical. Donc, on écrit à six mains ce spectacle, les textes, les musiques, etc. On va le présenter d'ailleurs au Teatro Comico dès le mois de novembre à Sion. Et puis, je travaille également sur notre 9e album. Je travaille également sur un autre spectacle. C'est un petit peu tôt pour en parler, mais à l'écriture, pour la première fois à l'écriture, toute seule justement d'une pièce. Et puis, ben, la deuxième volée de chansons sur scène, qui devait normalement se produire au mois de septembre, continue de travailler jusqu'au mois de septembre l'année prochaine. Donc, pas simplement je gère également la programmation de la salle polyvalente de Comté. Donc, du coup, pas simplement de choses à faire en ce moment.
En guise de conclusion, j'ai un petit questionnaire express, on dira, qui porte sur le rêve. C'est bien sûr un clin d'œil à la chanson Rêve infini qui est parue sur votre dernier album. Alors la première question, y a-t-il un rêve particulier que vous aimeriez encore réaliser?
Ouais, alors clairement, moi je rêve de pouvoir faire du cinéma, de pouvoir jouer au cinéma.
Deuxième question, y a-t-il un pays ou une région que vous rêvez de découvrir ou de redécouvrir?
Alors j'aimerais bien découvrir l'Australie parce que j'y suis jamais allée et du coup, ouais, ça j'aimerais bien y aller.
Et la dernière, si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous en premier dans le monde?
Bien, forcément, je mettrai des graines de paix partout pour que les nouvelles générations n'aient pas à voir ou à subir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde.
Célina Ramsauer, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter le meilleur pour la suite de votre carrière.
Merci à vous, à bientôt.
C'est ainsi que se termine cette interview. Si vous désirez obtenir d'autres renseignements sur Célina, rendez-vous sur son site officiel www.selinaramsauer.com. Salutations à toutes et à tous et merci pour votre écoute.